Ça, on va commencer. OK. Donc, on est rendu à la dernière des fêtes de l'Éternel, qui est la fête des tabernacles, qu'on va voir en ce soir ensemble. Puis, ça va conclure les sept fêtes de l'Éternel, parce que il y avait les trois premières dans un groupe, la Pâque, la fête des pains sans levain, et la fête des prémices, qui était dans le premier mois. Ensuite, au troisième mois, on avait la fête de la Pentecôte, qui était 50 jours après la fête des prémices. Puis maintenant, on est arrivé dans les trois dernières fêtes, qui est au septième mois, qui était devenu le septième mois, parce qu'avant, c'était le premier mois, mais parce que la Pâque est devenue le premier mois. Eh bien, les trois dernières fêtes étaient dans le septième mois. Puis c'est la fête des trompettes qu'on a vue pour rassembler Israël, le jour des expiations où Israël va être réconcilié à son Dieu, à son Messie. Ils vont recevoir leur Messie. Puis maintenant, c'est la fête des tabernacles. Ils vont entrer dans le royaume avec le Seigneur Jésus comme roi. Donc, on va lire à partir du Lévitique. Chapitre 23, Lévitique chapitre 23, on va lire à partir du verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les cinq convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules et de rivières, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes de l'Éternel? Le Seigneur va ajouter une bénédiction à la lecture de sa parole ensemble. On va demander son aide. Seigneur, notre Dieu, on veut te remercier pour ce temps qu'on peut passer ensemble dans ta parole. On sait, Seigneur, qu'en apprenant ces choses, on apprend à te connaître toujours davantage. Puis te connaître, plus on te connaît, Seigneur, plus on t'aime parce que tu es tellement merveilleux. Tu as fait des choses grandes et on veut reconnaître ta toute puissance, Seigneur. Et même si ces choses étaient pour Israël, elles ont souvent une application pour nous, puis on t'en rend grâce, Seigneur. On te remercie parce que tu es le Dieu qui bénit toujours en abondance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK, donc on a le mot tabernacle ici, la fête des tabernacles. Le mot tabernacle, ça veut dire une tente. C'est ça que ça veut dire, le mot tabernacle. On sait que dans l'Église, il y avait un petit, on appelait le tabernacle dans l'Église. C'était une petite boîte en bois comme où on mettait le calice avec les hosties dedans, ou le ciboire avec les hosties dedans. Ça, c'était la maison de Dieu. On disait ça, hein, c'était la maison de Dieu. Mais vraiment, le mot tabernacle, ça veut dire une tente. Puis, vous savez, dans le milieu anglophone, il y avait des francophones qui étaient dans la région d'Halifax. Puis, quand ils sacraient, ils disaient le mot tabernacle. Puis, les Anglais se demandaient, ils disaient, c'est quoi ça? Et moi, je leur disais, c'est une tente. Je veux dire, comme un temple. Pourquoi qu'il utilise le mot temple comme un juron? Ben là, ça me donnait l'opportunité de leur expliquer que Dieu avait habité dans une tente avec le peuple d'Israël. Il était venu sur la terre. Puis ça me donnait une ouverture pour leur parler de l'Évangile en leur expliquant ces choses-là. Dieu était venu vers nous, il avait habité avec nous pour nous amener l'Évangile. Mais c'est ça parce que les Québécois utilisent beaucoup le mot tabernacle comme un juron. Mais je leur expliquais ça. Mais le mot tabernacle veut aussi, pour les Juifs, c'était le mot Sukkot. Parce que dans Genèse, au chapitre 33, verset 17, il nous est dit, Jacob partit pour Sukkot, il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Sukkot. Puis ça veut dire cabane de branches. C'est ça que ça veut dire vraiment le mot. C'est cabane de branches ou ça peut être un repère, comme un endroit où on habite. Donc, eux, ils faisaient des tentes avec des branches d'arbres puis des rameaux. On a vu ça un peu, là. Il dit, vous ferez au okay, pendant 7 jours, le verset 35, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Puis, il dit, attendez un petit peu, vous observerez, c'est un peu plus loin, il nous dit, OK, ouais, le verset 40, vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Donc, il prenait des rameaux. Si on va dans Néhémie, au chapitre 8, on voit qu'ils ont gardé la fête des tabernacles. C'était dans le retour, quand ils sont revenus de la captivité. Ils ont lu dans le livre de la loi par rapport à la fête des tabernacles. Puis on voit comment est-ce qu'ils ont fêté cette fête-là dans le chapitre 8, les versets 14 à 17. Il dit, et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois. Donc c'est la fête du septième mois ici, c'est la fête des tabernacles. Et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvage, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Pardon. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes. Et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de. C'est remarquable, on voit que, vous savez, il semble que pendant le temps des rois, en Israël, en Juda, ils n'avaient pas fêté cette fête-là de cette manière-là, non. Parce qu'il dit, depuis le temps de Josué, fils de Nun. Donc, ça remonte avant tous les rois d'Israël. Depuis le temps de Josué, attendez un petit peu. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier, on célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une grande assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. Donc, c'est quelque chose quand on voit que depuis le temps de Josué, il n'y avait pas fêter cette fête-là de cette façon-là. Mais dans leur retour, dans leur zèle, ayant lu dans la parole de Dieu, ils ont fait comme les ordonnances qui avaient été données à Moïse, sûrement dans le livre du Lévitique, quand il avait lu ici, dans le chapitre 23, par rapport à la fête des tabernacles. Donc, c'était un temps de réjouissance parce qu'ils sont revenus à ce que le Seigneur avait donné comme ordonnance. Cette fête leur rappelait quand ils ont vécu au désert dans des tentes avec le tabernacle de Dieu au milieu. Donc, il y avait la tente de Dieu qui était au milieu d'eux et eux habitaient dans des tentes tout autour de la tente de Dieu qui était le tabernacle. Puis, on sait qu'il y avait un ordre là-dedans. Il y avait un ordre comment ils devaient, Dieu, la tente le tabernacle était placée, la porte vers l'Orient. Donc, on plaçait d'abord le tabernacle de Dieu. Et ensuite, il y avait une ordre. Chaque tribu avait sa place autour de la tente. Donc, Dieu était au milieu d'eux et eux, ils étaient placés tout autour dans leur place distincte qui leur avait été assignée. Il était tout tenté dans le désert. Donc, c'était quelque chose de vraiment merveilleux, là, parce que c'est Dieu qui était leur subsistance dans le désert. C'est lui qui était leur roi, qui était au milieu d'eux et qui les dirigeait, qui les nourrissait, qui les abreuvait, puis qui les protégeait. Donc, c'était Israël était campé tout autour de Dieu. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Si on voit que pour les peuples alentour, ils pouvaient observer ces choses-là, ils pouvaient les voir dans le désert quand ils étaient campés comme ça, ils pouvaient voir justement Balaam dans Nombre 24 décrit un peu la scène parce qu'on sait que Balak, il voulait qu'il vienne pour maudire ce peuple. Puis il le plaçait dans différents endroits pour avoir une vue du peuple, pour pouvoir le maudire. Mais on sait qu'il pouvait pas maudire parce que c'était trop beau, c'était un arrangement de l'Éternel. Mais dans le livre des Nombres, chapitre 24, si on regarde au verset 3 à 9, il dit, Balaam prononça son oracle et dit, Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. J'aime tellement ce verset-là. On voit que lui, en voyant ça, il ne peut pas rien dire de mal parce que c'est un arrangement, c'est un ordre que Dieu a institué pour Israël. Le tabernacle de Dieu au milieu, avec toutes les tribus, selon leurs tribus, étaient tentés autour. Puis, à Balaam, il ne peut pas rien dire de mauvais sur cette vision-là qu'il voit le peuple ici. Il dit, Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Imaginez-vous toute cette ordre-là. Puis, vous savez, dans un sens, quand on l'applique à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, quand on marche dans les directives que le Seigneur nous a données, chacun dans son don, chacun fait sa part, c'est quelque chose de beau, c'est un arrangement que Dieu a fait. On est le corps de Christ, on fonctionne chacun selon son don, selon sa place qu'on a été placé dans le corps. Puis Israël était comme ça. C'était un peuple qui n'était pas en désordre. C'était un peuple qui était dans l'ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Puis il reflétait le caractère de Dieu ici. Il dit, L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du bœuf. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Donc, c'est vraiment, on sait que Balak n'a pas aimé ça, mais qu'est-ce que Balaam a dit d'Israël? Mais c'était quelque chose de beau. Puis, vous savez, on pouvait les voir dans le désert, qui était dans un arrangement que Dieu avait fait, comme des aloès plantés près des eaux. C'était vraiment merveilleux. Donc, cette fête-là rappelait les années au désert. Parce que là, maintenant, ils étaient dans le pays, ils devaient garder aussi cette fête-là pendant qu'ils étaient dans le pays, puis comme ils l'ont fait aussi dans Néhémie. Mais ça leur rappelait, Dieu voulait qu'ils se souviennent du temps où ils avaient marché au désert pendant 40 ans, puis Dieu était au milieu d'eux pour leur subsistance. Mais si cette fête-là pointait en arrière vers le temps où ils ont sorti d'Égypte et qu'ils ont marché avec Dieu à la terre. On sait quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas encore le tabernacle, mais quand ils sont arrivés au mont Sinaï, Moïse était monté sur la montagne, puis Dieu lui avait fait voir le vrai tabernacle dans les cieux pour le faire celui-ci à l'image de celui qu'il avait vu dans les cieux. Eh bien, après ça, le tabernacle les a suivis, puis eux, c'est toujours le tabernacle qui les dirigeait. Quand la colonne de nuée se levait sur le tabernacle, il partait. Quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait. Puis, mais la première des choses, c'était le tabernacle devait être monté avec la porte vers l'Orient. Et ensuite de ça donnait tout l'emplacement de toutes les autres tentes qui étaient les tentes des enfants d'Israël. Mais Cette fête-là, si elle pointe en arrière, elle pointe aussi vers l'avenir. Parce que quand le royaume va leur être accordé, un jour, Israël va avoir le royaume, ils vont être dans le royaume avec leur roi. Et cette fête-là pointe vers ce temps-là aussi, quand finalement, ils vont recevoir le royaume qui va leur être accordé selon les promesses de Dieu et aussi leur attente. Dieu leur avait fait la promesse qu'il allait être un royaume, puis qu'il allait avoir un roi. Et on sait que quand ils sont sortis d'Égypte, c'est Dieu, l'Éternel, qui était leur roi. Mais un jour, ils ont rejeté l'Éternel comme roi. Ils ont voulu avoir un roi humain. Puis on va voir ça en avançant. Mais c'était leur attente. Israël attend encore ce royaume-là. Mais on sait que le brigand sur la croix attendait ça. Il avait entendu parler de ce royaume-là parce qu'il dans Luc 23, verset 42, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Mais vous, c'était dans la pensée juive, le royaume. Puis ça pointait vers ça. Puis verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc, il a demandé au Seigneur, souviens-toi, il l'a reconnu comme le roi et il lui a demandé, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est sûr qu'il était à côté du roi, puis il demande une faveur. Il avait reconnu son péché devant lui, il avait reconnu qu'il méritait le châtiment qu'il subissait, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Puis il fait une demande au Seigneur. Fait une demande, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Puis le Seigneur répond à son besoin, à son attente. Ce règne-là, il était attendu par les Juifs. Dans Luc 19 au verset 11, on voit que dans la pensée juive, c'était toujours, ça leur avait été promis, puis c'était toujours près d'eux autres. Ils écoutaient, dans Luc 19 au verset 11, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Donc, c'était dans la pensée. Ils attendaient toujours. Ils attendaient le royaume, ils attendaient que le roi vienne puis qu'il leur donne le royaume. Puis en pensée, ils pensaient souvent à David parce que David leur a donné un royaume. David était un roi puissant qui leur a donné la victoire. Ensuite, de Salomon, qui a donné un règne de paix, ben, c'est un peu une image de ce qui allait venir parce que David est un type du Seigneur Jésus, qui était conquérant, qui allait vaincre leurs ennemis. Puis Salomon, qui était comme un type aussi du Seigneur Jésus, mais le type du Seigneur Jésus comme le roi de paix, parce que Salomon, lui, a régné dans la paix, la prospérité. Il n'a pas eu à combattre les ennemis. David les avait combattus, les avait vaincus. Puis Salomon leur donnait un royaume de paix, de prospérité. Mais on sait que ça a dégringolé parce que à cause du péché, tout ça. Mais dans leur pensée, eux, ils attendent le royaume. Jean le Baptiste l'avait annoncé aussi. Dans Matthieu 3, 2, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, c'est encore là, il annonçait, lui, il venait avant le roi, il venait précéder pour préparer le peuple à recevoir le royaume. Les disciples aussi attendaient, c'était dans leur pensée, les disciples du Seigneur Jésus, dans Actes 1, 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc, vous savez, on voit la pensée qu'il y avait toujours l'espérance que ce royaume-là soit rétabli, le royaume, mais on sait que ça va être encore plus grand que le royaume de David, parce que ça va être un règne millénaire, puis ensuite ils vont entrer dans l'éternité. Mais cette fête aussi, elle pointe en arrière pour le temps où ils ont vécu dans le désert, qui ont marché dans leur pèlerinage dans le désert, avec la tente de Dieu au milieu, puis eux qui demeuraient dans des tentes campées autour du tabernacle, et que ça pointe aussi vers le royaume à venir. Mais cette fête aussi pointe, il nous parle d'un huitième jour. Septième, c'était pendant 7 jours. Sept, qui est un chiffre parfait, donc c'est une durée parfaite. Puis on sait qu'on va voir, c'est un royaume de 1000 ans, qu'on appelle le millénaire, millénium. Donc c'était, mais ça pointe aussi au-delà du millénium, parce qu'il y a un huitième jour. Donc il y a les 7 jours qui sont un chiffre un temps parfait, mais il nous parle aussi du huitième jour parce qu'on sait qu'après le millénium, ils vont entrer dans le royaume éternel du Seigneur Jésus-Christ. On sait que dans le millénium, il y a encore du péché qui va être jugé par le Seigneur, il va régner avec une verge de fer. Mais il nous parle du huitième jour, puis c'est une nouvelle période, puis ce sera quand la question du péché va être réglée à toujours. Dans le millénium, il va y avoir encore du péché, mais après le millénium, quand ils vont entrer dans l'éternité, il n'y aura plus de péché à jamais. La question du péché va être réglée à toujours. Si on va dans l'Apocalypse au chapitre 21, dans l'Apocalypse au chapitre 21, les versets 1 à 6, donc Apocalypse 21, les versets 1 à 6, ça nous parle du huitième jour, parce que dans notre passage, il a parlé du huitième jour. Le huitième jour, ça nous parle d'un nouveau commencement. Donc, dans Apocalypse 21, versets 1 à 6, il dit: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. On est un peu en l'image du tabernacle qui était dans le désert, mais là maintenant c'est le vrai tabernacle qui est avec les hommes. Et il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus parce que la question du péché, c'est le dernier ennemi qui va être vaincu, c'est la mort. Puis la mort, elle règne à cause du péché, mais là, la question du péché étant réglée à jamais, la mort n'est plus. Il dit, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Donc, comme ça, ça nous pointe vers le huitième jour. Mais vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ben Dieu était leur roi. C'est lui qui les dirigeait à travers Moïse, mais c'est Dieu qui allait devant eux. On a parlé aussi à un moment donné que son ange, Moïse, il disait qu'il voulait que Dieu soit avec lui, parce qu'il dit, si je suis seul à conduire le peuple, ça ne marchera pas. Mais son ange était avec eux. Mais Dieu, c'était Dieu qui était leur roi. Puis, quand ils ont sorti d'Égypte, puis c'est là qu'ils sont devenus une nation avec un roi, mais leur roi était dans le ciel. Leur roi, c'était Dieu lui-même qui agissait pour eux à travers Moïse, qui était leur dirigeant, que Dieu leur avait donné. Ils dirigeaient pour Dieu le peuple d'Israël. Mais quand ils ont, à un moment donné, quand ils sont arrivés dans le pays, ils ont demandé un roi. Ils voulaient avoir un roi comme les nations. Ils voulaient avoir un homme qui était devant eux comme les nations. Puis, mais vraiment, en demandant un homme comme roi, ben, c'est qu'ils rejetaient Dieu comme leur roi. Parce que Dieu était là, il avait été avec eux autres depuis qu'ils étaient sortis d'Égypte. Même pendant qu'ils étaient en Égypte, ça ne rendait pas compte, mais Dieu avait son œil sur eux, il les a préservés. Puis il les a fait sortir d'Égypte, puis il les a conduits, il n'a jamais manqué, pendant 40 ans dans le désert, quand ils sont rentrés dans le pays, il leur a donné la victoire sur les habitants du pays, il les a conduits, il leur a donné des juges pour prendre soin. Dieu était un bon roi pour eux. Il prenait soin d'eux. Il les a préservés, il les a disciplinés quand ils avaient besoin de discipline, il les a donné la victoire quand ils avaient besoin de la victoire, il les a nourris, il les a abreuvés. Il a fait tout pour eux autres. Mais à un moment donné, le peuple, vous savez, il devait marcher par la foi. Mais c'était difficile pour eux de ne pas voir leur roi qui allait devant eux. Puis ils ont demandé un roi qui allait marcher devant eux, comme les nations. Mais dans 1 Samuel 8, 7, l'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple. Samuel était attristé parce que Samuel réalisait qu'ils rejetaient Dieu comme leur roi. Et l'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'ils te diront, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Mais oui, ils rejetaient le règne du Seigneur. Ils voulaient avoir un homme, puis on sait que le premier homme qu'ils ont eu, c'était un homme qui était grand, mais il n'était pas assez grand, parce qu'il avait peur devant Goliath, c'est Saül qui était. Puis Saül n'a pas été obéissant. Saül n'avait pas la foi pour s'attendre à Dieu. Puis après, Dieu leur a donné un roi selon son cœur. Un homme qui, quand Samuel est allé vers les fils d'Isaïe, quand il a vu Éliab qui était grand puis fort, ben Samuel a dit, ah, sûrement ça c'est l'élu de l'Éternel, mais le Seigneur a dit, non, non, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux de regard, mais l'Éternel regarde au cœur. Puis après que les sept fils d'Isaïe ont passé, le Seigneur a dit, j'ai pas choisi aucun d'eux. Puis là, Samuel a dit, mais il n'y en a pas un autre. Mais ils ont dit, oui, il y a le plus jeune, il est avec les brebis. Ben, il dit, fais-le venir parce que c'est lui. Puis c'était lui que le Seigneur voulait. Il voulait l'oindre roi sur son peuple parce que David est un homme selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Puis Dieu savait, même si David a fait des erreurs, David a péché, mais David savait se repentir. David avait une relation intime avec Dieu. David pouvait s'emparer de la puissance de Dieu. Il avait combattu l'ours et le lion, puis il a combattu Goliath, puis il était capable de combattre. On sait que David, comme roi d'Israël, par la puissance de Dieu, a pu délivrer Israël de ses ennemis. Puis c'est ça qu'avant que David parte de sur la terre, il avait été délivré de tous ses ennemis. On sait que David, sa vie n'a pas été facile. Il a été rejeté pendant que Saül était sur le trône, mais c'est lui qui avait été oint. Mais dans son rejet, David a continué. Il prenait même, il allait combattre les ennemis d'Israël pendant qu'il était poursuivi par Saül. Puis éventuellement, quand il est venu sur le trône, il a régné pour Dieu. Il a fait un grand travail. Il a délivré Israël. Mais après ça, son fils Salomon a amené un règne de paix. Mais les autres rois ont décliné. Mais vraiment, Dieu avait en vue que le plus grand fils de David un jour vienne sur le trône pour régner. Puis ça, c'est le Seigneur Jésus. On va aller dans Matthieu 22, versets 41-46. Matthieu 22, les versets 41 à 46. Ici, il dit, comme les pharisiens étaient assemblés, Matthieu 22, verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? Donc, il parlait du Messie, celui qui était l'élu de Dieu. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Les autres, ils lui répondirent, de David. Ça n'a pas été long, la réponse est venue rapidement, parce que c'est sûr que Dieu avait promis un descendant de David qui s'asseoirait sur le trône, puis qui donnerait le royaume, il l'avait dans la pensée, mais même ils avaient. Ils savaient qui était le roi, qui serait celui qui s'asseoirait sur le trône de David. C'est le fils de David. Donc, il dit le Christ qui devait venir, qui avait été promis par Dieu, il fallait qu'il soit le fils de David. Le Seigneur Jésus, évidemment, était un descendant de David. De qui est-il fils? Ils lui répondirent de David. Jésus leur dit, comment donc, David, animé par l'Esprit, ça c'est dans la parole de Dieu, David qui avait écrit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Seigneur les amène à réfléchir un peu, là. Il leur dit, là, OK, le Christ qui va venir, c'est lui qui va vous emmener le royaume. Mais de qui est-il fils? Ben, faut qu'il soit le fils de David, parce que Dieu a fait des promesses à David que le fils de David s'asseoirait. David ne manquerait jamais d'un successeur pour s'asseoir sur le trône d'Israël, mais on sait que Jéconias a reçu qu'il était le dernier à s'asseoir sur le trône de David, des fils de David, parce à cause de son péché, il a reçu une malédiction que nul de ses descendants s'asseoirait sur le trône de David. Mais le Christ, lui, il viendrait, puis on sait par la naissance virginale, il était fils adoptif de Joseph, qui était un descendant de la lignée royale. mais aussi par Marie, sa mère, il était descendant de David. Donc, c'est lui qui était l'héritier du trône. C'est quelque chose quand on pense à ça. Hein? Comment est-ce que Dieu peut ramener les choses? Ils avaient rejeté Dieu comme leur roi, puis maintenant, Dieu revient pour redevenir leur roi. C'est lui le roi qui va les emmener vraiment qui va accomplir les promesses pour eux autres, qui va leur donner ce royaume-là qui va être inébranlable. Mais on sait que le Seigneur Jésus, quand ils ont demandé la question, ils ont dit de qui doit-il être le fils de David, mais il voulait qu'ils réalisent qu'en étant le fils de David, il était aussi le Seigneur de David. Puis c'était qu'il était Dieu lui-même qui était venu dans la postérité de David pour redevenir le roi d'Israël, puis leur donner. C'est lui vraiment qui, la fête des tabernacles pointait vers lui qui allait leur donner le royaume. Mais puis pourtant, quand le Seigneur Jésus est né, il était appelé le roi des Juifs. C'est dans Matthieu 2, au verset 1 à 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs? C'est des mages de l'Orient qui viennent dire, demander au peuple juif, où est le roi des Juifs? Mais eux, ils savaient qu'il devait naître à Bethléem. Ils l'ont conduit. Mais il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. S'ils pouvaient le pointer vers Bethléem, parce que c'est là que devait naître ce grand fils-là de David, mais ils ne l'ont pas reconnu. Les rois d'Orient viennent, ils l'appellent le roi des Juifs, mais eux, on sait qu'Hérode, parce que lui était à ce moment-là le roi des Juifs, mais c'était un roi des Juifs qui avait été mis là par les Romains, mais il était vraiment d'Édom, Hérode. Mais il avait peur de perdre sa place, il a envoyé tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient nés là-bas pour essayer d'éliminer quelqu'un qui viendrait en compétition avec lui. Mais le Seigneur a été amené en Égypte, puis a été préservé. Hérode n'a pas pu le toucher parce que Hérode n'était pas là. C'était pas lui qui leur donnerait le royaume parce que du temps d'Hérode, ils étaient sous la domination des Romains. Mais c'est le Seigneur Jésus vraiment qui va leur donner le royaume. Mais quand il meurt, son titre au-dessus de sa tête, vous savez, il était proclamé roi. Son titre au-dessus de sa tête, dans Luc 23, 38, il dit, il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Voyez-vous comment c'est vraiment lui qui est le roi des Juifs. Mais les Juifs ont disputé ce titre-là, hein, parce que on voit dans Jean 19, pourtant le Seigneur leur donnait là, vraiment il leur faisait voir qui était le Seigneur Jésus, il était le roi des Juifs, c'est lui qui les attendait, là. Il s'est présenté dans le temple, Dieu s'est présenté dans son temple, ils ne l'ont pas reconnu. Ils avaient le temple à ce moment-là. Mais dans Jean 19, au chapitre 19, les versets 19 à 22, il dit, Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Oui, c'est un roi païen, c'est Pilate qui est un juge païen qui écrit cette inscription-là, qui était le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs ont lu cette inscription-là parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville et elle était en hébreu, en grec et en latin. Donc, tout le monde pouvait le lire, c'était traduit dans ces langages-là qui étaient les langages utilisés dans cet endroit-là. Puis il pouvait lire que c'était écrit au-dessus de sa tête pendant qu'il était crucifié, couronné, il était couronné d'épines, mais c'était écrit qu'il était le roi des Juifs. Puis les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs. Voyez-vous, il voulait pas voir ça. Le brigand sur la croix lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Mais eux, ils voulaient pas reconnaître qu'il était le roi des Juifs. Il dit, n'écris pas qu'il est roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Hein, il voulait le mettre comme un imposteur qui essayait de prendre la place, mais c'était vraiment. Puis regardez qu'est-ce que le Seigneur a permis. Il dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Puis Pilate n'a pas changé. Il était en autorité, puis il n'a pas changé le titre qui était au-dessus de la tête du Seigneur Jésus. Il a vraiment proclamé comme le roi des Juifs. Mais les Juifs, ils l'avaient rejeté comme roi. Dans le verset 15 du chapitre 19, regardez, quand dans le verset 14, c'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, hôte, hôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? C'est quelque chose, vous voyez, c'était leur roi, puis ils voulaient qu'il soit crucifié. Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Imaginez, hein, eux qui attendaient le royaume, qui attendaient le Messie, il était là maintenant, puis ils disent, nous n'avons de roi que César. Alors, il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Donc, il était proclamé roi, même par ce juge-là païen, qui était romain, qui l'a proclamé roi, puis il a dit, est-ce que je vais crucifier votre roi? Mais oui, c'est lui qui était supposé leur donner le royaume, puis on dit, on n'a pas d'autre roi que César. C'est ça, c'est vraiment quelque chose. Mais Jésus s'était présenté à eux, puis c'est vraiment, quand le Seigneur Jésus est entré à Jérusalem sur un anneau, l'offre du royaume était sincère, était réelle. S'ils avaient reçu le Seigneur Jésus à ce moment-là, ils auraient été leur roi. Dans Jean 12, le Seigneur Jésus accomplissait l'Écriture qui leur disait comment le roi viendrait. Il est venu de la bonne façon, mais ils l'ont pas reconnu. Regardez au verset 12 du chapitre 12. Donc, Jean 12 au verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Voyez-vous, c'était une offre pour le royaume, puis la foule avait reconnu. Jésus trouva un anon et s'assit dessus selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Donc le Seigneur Jésus est venu se présenter à eux. Voici, fille de Sion, ton roi vient à toi. Il est humble, monté sur un ânon, puis, mais ils ne reconnaissent pas. Mais c'est triste dans un sens, parce qu'un peu comme quand ils sont sortis de l'Égypte, ils auraient pu rentrer dans le pays. Dans 11 jours, ils étaient rendus à Kadesh Barnéa, à l'entrée du pays de la promesse. Mais à cause de leur incrédulité, dans Hébreux 3 et 4, ils nous montrent, à cause de leur désobéissance, qui était vraiment à cause de leur incrédulité, qu'ils ont désobéi, qu'ils n'ont pas voulu aller prendre possession du pays, eh bien, ça a été retardé de 40 ans. Parce que le Seigneur a dit, cette génération-là n'entrerait pas, puis ils sont morts dans le désert, puis pendant 40 années, ils ont fait un pèlerinage, ils tournaient en rond dans le désert, avec toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de situations qu'ils ont vécues, parce ils ont rejeté celui qui voulait les faire rentrer, pour leur donner la victoire dans le pays. C'est la même façon, quand le Seigneur Jésus est venu, ils n'ont pas reçu. Ils ont dit, on ne veut pas que cet homme règne sur nous. Puis les Juifs, là, pendant 2000 ans, le peuple d'Israël, pendant 2000 ans, est dans on appelle ça le mystère de l'aveuglement d'Israël. Parce qu'ils ont rejeté leur Messie, ça a été reporté. C'était reporté, puis présentement, ça fait 2000 ans, on sait qu'on arrive au temps où le Seigneur va revenir. Puis quand il va revenir, ben, on a vu ça, hein, il va les rassembler parce qu'ils sont tous éparpillés, sont dispersés à cause de leur qu'ils ont rejeté leur Messie, ils ont été dispersés, ils ont été emmenés en captivité, dispersés à travers le monde. Puis le Seigneur va les rétablir, il va les ramener, la fête des trompettes, il va joindre les royaumes du nord avec le royaume du sud, il va en faire un seul peuple sur les montagnes d'Israël, il va les emmener là à Jérusalem. Puis il va parler à leur cœur, il va les rétablir le jour des expiations. Puis là, il va revenir comme leur roi. Puis là, il va se présenter aux autres. Puis cette fête-là, elle représente le règne millénaire de Christ. puis communément appelé le millénium. Mais vous savez, c'est un peu, David est un peu, David est à l'image du Seigneur Jésus, il est un type du Seigneur Jésus. On sait que David avait été oint par Samuel pour être roi d'Israël en remplacement de Saül. Mais Saül l'a persécuté, Saül, il a eu peur de perdre sa place, même on sait qu'il a dit à Jonathan, fils pervers, c'est pas que tant que le fils d'Isaïe vit, le trône était insécure pour Jonathan. Mais Jonathan, lui, il avait dit à David, je sais que c'est toi qui vas être sur le trône. Puis quand tu vas être sur le trône, je vais être à ta droite. Et finalement, il est mort avec Saül, son père. Il a été enlevé, puis le trône était donné. Mais il y a été un temps où David était oint comme roi, mais il était rejeté. C'est ça, on voit le type du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est oint. C'est lui qui est le roi des Juifs. Dieu l'a donné. Le Christ, ça veut dire l'élu de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi. Il est le fils de David. Il est l'héritier du trône. Mais présentement, il est rejeté par son peuple. Mais un jour, il va revenir, puis il va être reçu comme. Et David, un jour, le peuple a reçu David comme son roi. Puis c'est là qu'ils ont eu le règne que David leur a donné. Mais la même chose pour le Seigneur Jésus. Quand il va revenir, ils vont reconnaître, on a dit auparavant, que les deux tiers serait détruit, puis que un tiers serait purifié, puis à travers la tribulation, puis ils vont finalement reconnaître celui qu'ils ont percé. Ils vont reconnaître que celui qui est allé sur la croix, il a été percé pour leur péché, il a été brisé pour leur péché. Puis là, finalement, ils vont le recevoir. Puis c'est là que le Seigneur va leur donner le royaume millénaire il va être leur roi. Puis la parole de Dieu va s'accomplir. Finalement, Dieu, parce que le Seigneur Jésus est Dieu manifesté dans la chair, il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Il va avoir maintenant, il va régner à Jérusalem, il va régner sur son peuple, puis il va leur donner ce royaume-là. Ensuite, éventuellement, ça va être aussi le huitième jour après le règne millénaire, il va leur donner un royaume éternel. Parce que, comme dans la statue de Daniel, le royaume a été donné aux nations. On appelle ça le temps des nations. Mais à partir de Babylone, dans la statue de Daniel, la première nation qui a eu le règne, après que Israël a perdu le règne, eh bien, c'est Babylone. Après ça, les Mèdes et les Perses. Ensuite de ça, les Grecs. Ensuite, les Romains. Puis les Romains, l'Empire romain ranimé. Mais le Seigneur, il dit qu'il est comme une pierre sans l'aide d'aucune main qui vient frapper la statue dans les pieds. Puis toute la statue s'écroule parce que le temps des nations finit là. Puis la statue s'écroule, puis elle est réduite en poussière, puis le vent l'emporte. Puis cette pierre-là qui est venue sans l'aide d'aucune main, qui a frappé la statue, qui a détruit ce royaume-là, a donné la victoire à Israël, puis cette pierre-là devient une grande montagne. Puis c'est ça qu'on voit, c'est le Seigneur Jésus qui vient reprendre le royaume pour le donner à Israël. Et lui, comme le plus grand fils de David, il va leur donner la victoire, puis il va régner avec eux. On va regarder un petit peu la semaine prochaine, on regardera un peu le royaume, qu'est-ce que ça va être, le millénium, on va parler du millénium. Puis aussi, après ça, l'état éternel, quand ce royaume-là va être un royaume, parce que cette pierre-là devient une montagne, puis avoir un royaume qui sera jamais défait. Un royaume, ça va être il va régner éternellement, puis dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux, le Seigneur Jésus va régner éternellement. C'est que je m'arrête là pour l'instant, puis je vous donne la possibilité de pouvoir reprendre votre micro. Et si vous avez des commentaires, si vous avez des commentaires ou que vous avez des questions, on va prendre un temps pour les regarder.
J'aurais quelque chose à partager
Bon, parfait.
par rapport à Balaam.
Ouais.
C'est beau, hein, la manière que Balaam décrivait devant Balak les tentes. C'est très beau, le texte que tu lis. Un jour, avant la pandémie, ou au début de la pandémie, j'avais reçu un téléphone de Francine. Je me souviens pas à quelle occasion. Puis elle m'avait dit, Lévi, elle a dit, si vous voulez vous réunir avec nous sur Zoom. Alors, elle m'avait donné le lien, puis c'est là que j'ai commencé à me réunir avec l'Assemblée de Sainte-Marie.
Ok.
Alors, les réunions se faisaient toutes sur Zoom le dimanche. Puis moi, ben, j'étais vraiment impressionné de voir l'Assemblée Sainte-Marie. J'avais jamais été. Mais là, je voyais les frères et sœurs se lever, prier, adorer. Et puis, je voyais, disons, Gilles Turcotte ou, en tout cas, les gens qui œuvraient, là, pour aller chercher les éléments, là, le vin, puis le pain, là, puis, en tout cas, c'était tellement beau que je trouvais ça merveilleux. Puis je disais, c'est là que ça m'a fait penser à Balaam. Je pensais à Balaam, justement, quand ça s'est fait. Puis je pense que j'avais partagé à Sainte-Marie aussi. Alors, quand on est rassemblés, là, David à Chambly, les gens de Québec, les gens de Rimouski, Rivière-du-Loup, quand on est rassemblés le dimanche, là, ben, rappelez-vous de ça, cette histoire que Gérald Joly à propos des tentes, l'histoire de Balaam, parce que Dieu nous voit, lui, il est encore plus haut que le rocher, là. Il voit tout, il nous voit tout comme ça, là. Puis comme il voulait bénir, comme il désire bénir les Hébreux, alors on est le peuple de Dieu, nous. Nous sommes l'Israël de Dieu, là. Alors c'est le même Dieu qui a, en tout cas, qui a déversé son amour envers nous. C'était ma réflexion. Merci beaucoup encore.
Amen.
Amen.
Ce que Dieu fait, c'est beau. C'est toujours beau. C'est ordonné, hein? C'est comme ça, ce peuple-là. Puis c'est bon de regarder ça dans l'Ancien Testament. Chacun avait sa place, là. Dieu avait tout organisé. C'était un camp qui était organisé parce qu'il dit que c'est comme des aloès plantés près des eaux. La vie, l'abondance était là parce que le Seigneur avait fait. Puis c'est la même chose quand, dans 1 Corinthiens 14, quand il me dit si quelqu'un du peuple rentre, puis que tous prophétisent, ne diront-ils pas que Dieu est réellement au milieu de vous? Mais si tous parlent en langue, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Parce que ça fait du désordre. Mais quand c'est dans l'ordre que Dieu a établi, c'est vraiment beau.
Oui, c'est dans le Nouveau Testament que c'est mentionné que Dieu est un Dieu d'ordre aussi.
Ouais,
Donc,
c'est ouais.
quand on se réunit aussi, Dieu s'attend à ce qu'il y ait de l'ordre au niveau de l'Assemblée, parce qu'il a quand même prévu de quelle façon ça devrait se passer dans l'Assemblée.
C'est dans 1 Corinthiens 14 qu'il dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Puis le mot paix, là, c'est comme ça veut dire joindre. Ça veut dire joindre ensemble. C'est ça. C'est que tout s'harmonise quand on fonctionne selon le plan qu'il nous a donné. Puis c'est important. On sait que dans l'Ancien Testament, il y avait tellement d'indications comment ça devait fonctionner, tous les petits détails. Puis dans le Nouveau Testament aussi, des gens qui pensent que oh, ben, on fait ça comme on veut, non. Puis j'entendais même quelqu'un qui disait dernièrement que on fait ça, Dieu n'a pas donné d'indication comment l'Église doit fonctionner, mais oui. Mais si on manque la simplicité du Nouveau Testament à cause de des idées préconçues qu'on a déjà d'avance, on pense qu'on sait. Mais si on prend le plan de Dieu dans la simplicité qui nous est donnée dans le Nouveau Testament, ben, c'est merveilleux aussi. Puis c'est là qu'on voit la présence de Dieu parce que c'est lui qui dirige.
Qu'est-ce qui devait être spécial aussi, c'est que lorsque les tribus d'Israël partaient, c'était plus d'un million de personnes, là, chacune des tribus partait avec leur couleur spécifique, puis chaque tribu partait selon l'ordre établi par Dieu, hein. Puis si on avait été là pour voir à vue d'avion ou d'hélicoptère, cette marche-là à travers le désert ou quel que soit l'endroit où ils étaient, vraiment, ça doit être impressionnant pour les gens aux alentours, hein? qui voyaient ce peuple-là se déployer à travers toute cette multitude de personnes-là. Ça devait être spécial.
Oui, c'est ça, parce que c'est ça, des fois, en lisant ça, on réalise pas, mais les nations les voyaient. Comme Balak, quand il a demandé à Balaam de venir, puis il l'a monté sur le mont Péor, puis il l'a monté sur les montagnes alentour, puis il observait, peut-être à l'insu d'Israël, je pense qu'Israël ne réalisait pas nécessairement. Mais moi, je disais ça à un moment donné, vous savez, c'est comme une galère qui est dans l'eau. Puis, avec les rameurs, dans ce temps-là, c'était tout, il y avait un énorme, puis ça progressait, ça avançait. Imaginez-vous pour quelqu'un qui aurait été sur le rivage, puis s'il n'y avait pas eu d'ordre, que chacun des rames se serait frappé ensemble, ça aurait tourné en rond. Qu'est-ce qu'il aurait dit? C'était du désordre. Mais parce qu'il y avait quelqu'un qui dirigeait, tous les rameurs marchaient à l'unisson, puis il y avait un rythme, puis ça progressait. Puis on peut dire, on voyait une harmonie, mais c'est la même chose avec l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quand on fonctionne comme lui veut qu'on fonctionne, ben, les gens du dehors, ils peuvent observer ces choses-là. Ils peuvent voir comment qu'on fonctionne. Puis ils vont dire vraiment que Dieu est au milieu de nous.
Dans l'Ancien Testament, on voit que le tabernacle était là, puis les tribus étaient autour, comme on peut le voir dans la parole. Puis, quand tu parlais de ça tantôt, ça me faisait penser quand le Seigneur Jésus-Christ est revenu, il est ressuscité. Le Seigneur s'est présenté de quelle manière? Il s'est présenté au milieu d'eux. Il n'était pas en arrière, il s'est présenté au milieu d'eux. On peut voir ça dans l'Évangile de Jean. Jean 20, le verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. Il leur dit que la paix soit avec vous. On voit le Seigneur ici, la position qu'il a, il est au milieu des croyants, il est au milieu des disciples. Puis c'est là qu'est sa place. Puis en même temps, les premières paroles qu'il a dit, que la paix soit avec vous. C'est merveilleux, des paroles qui sont dites là. Le Seigneur nous donne sa paix.
Ça, il faut lui laisser sa place, hein, s'il est au milieu. Puis quand il a dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça devient évident quand on. Mais si quelqu'un prend la place de dominante, ben, ça enlève la place au Seigneur Jésus. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie.
Oui. Gérald, j'avais une question posée, c'est pas par rapport à ce soir.
OK.
Dans Exode 32, le verset 32, pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai
De mon livre.
dans mon livre. Peux-tu répondre à cette question-là, Véran?
Là, tu veux dire que tu veux comparer ce livre-là avec le livre de vie de
Non,
l'agneau?
parce que là, quand nos noms sont écrits dans les cieux, dans le livre de vie. Puis
Ouais.
là, ici, Moïse a dit à l'Éternel, efface mon nom de ton livre.
Ouais.
Puis là, l'Éternel a dit, c'est moi qui effacerai le nom des personnes. Ça veut-tu dire qu'au début de la création, nos noms étaient tous écrits dans le livre de vie?
Mais là, est-ce que c'est vraiment le livre de vie ici? Tu sais, quand Dieu, il y avait un plan. Mais on voit que Moïse, dans un sens, quand il dit ça, c'est un peu comme Paul, hein, quand il était tellement, il avait tellement à cœur son peuple. Puis c'est difficile de comprendre quand Paul il dit que je voudrais être anathème pour mon peuple, tu sais, séparé de Christ pour eux autres. C'est toute une intercession, là. Mais dans ce langage-là, c'est ça, c'est un peu ambigu l'histoire du livre de vie de l'agneau, là. Est-ce qu'on est écrit dedans ou est-ce que notre nom vient dans le livre au moment de notre conversion? C'est certain que Dieu connaît ceux qui sont siens, il sait d'avance, pour lui l'histoire il est dans l'éternité, il n'est pas dans le temps. Il sait d'avance qui sont ceux qui vont être sauvés sans vraiment imposer à certains d'être sauvés puis rejeter d'autres. Dieu a laissé le libre choix à l'homme. Il faut que l'homme réponde à lui. Mais c'est ça. Mais dans l'Apocalypse, quand il dit que je n'effacerai point son nom du livre de vie, ben, ça ne veut pas dire qu'il pourrait l'effacer. Ça veut dire qu'il ne le fera pas, justement.
Merci,
Mais dans Deutéronome, je pense que c'est dans Deutéronome 39, il dit les choses cachées sont à l'Éternel, et les choses révélées sont pour les fils de l'homme. Dans 29. Ouais, dans Deutéronome 29, il dit les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est certain qu'il faut, dans nos explications, il ne faut pas aller au-delà des Écritures. C'est là, quand on va au-delà des Écritures, là, on peut faire erreur. C'est que faut s'arrêter à ce qui est, pas aller plus loin que ce qui est écrit. Fait qu'il reste des questions, des fois, qui ne sont pas répondues.
J'ai bien aimé, Nelson, la réflexion que tu as faite. J'avais la même pensée quand le Seigneur s'est présenté au milieu de ses apôtres après sa résurrection. Puis c'est le mot qui a dit que la paix soit avec vous. Puis Gérard l'a bien dit, la paix, c'est veut dire unité, ensemble. Fait que tu as tombé dans la même réflexion que moi par rapport à que le Seigneur était au centre, puis aussi l'ordre des tribus. Hein. Les tribus, il y avait toujours trois tribus de. À l'est, à l'ouest, au midi, puis à l'occident. Il y avait toujours les tribus étaient toujours autour, puis avec un ordre établi par Dieu.
Selon leur bannière.
Oui. Ça marchait aussi selon les fils, les fils de Jacob. Les
Judas,
fils
ouais,
aînés,
Lévi.
ça marchait par les fils aînés en descendant.
Chacune des tribus, ouais. Le temps est arrivé. On va peut-être terminer par un mot de prière. Puis, s'il y en a qui veulent continuer à parler, ils pourront, tandis que ceux qui doivent partir pourront partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole qui est tellement merveilleuse. Elle nous pointe toujours vers ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Puis oui, Seigneur, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On te remercie, Seigneur, pour les méditations qu'on peut avoir dans toutes ces choses que tu nous as écrites, que tu nous as montrées. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir les serrer dans nos cœurs comme un trésor précieux, afin de te connaître davantage. Et en te connaissant, Seigneur, plus on va te connaître, plus on va t'aimer. Parce que on t'aime parce que toi, tu nous as aimés le premier. On te remercie encore pour tous ceux qui se sont joints ce soir. On te demande, Seigneur, de nous faire grandir ensemble pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.